Ok, donc Pierre-Yves, tu es un chercheur à l'École d'économie de Paris et spécialiste d'économie de la santé. Tu participais donc à la table ronde là, pour ces journées de l'économie autour du thème « La santé à quel prix ?». Première chose, il y a eu là très récemment des débats assez vifs autour de l'instauration de franchises médicales et notamment sur leur impact potentiel en termes d'inégalité. Est-ce que tu pourrais un petit peu refaire le point et nous dire quels sont les risques qu'on peut attendre en matière d'évolution des inégalités du fait de l'instauration de telles franchises ?
Ouais, alors sur les franchises, où je crois que la question plus générale qui est posée, c'est la question de la participation financière aux dépenses et la question de des barrières financières à l'accès aux soins. Et ça, c'est vrai que les franchises risquent d'introduire des difficultés d'accès aux soins des plus pauvres. Cela dit, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, une bonne partie des inégalités d'accès aux soins ne sont pas nécessairement en termes monétaires. On a des grosses inégalités vis-à-vis du système de soins en termes d'information. On peut dire exactement la même chose du système de santé que ce qu'on raconte sur le système éducatif, où savoir que tel hôpital est de bonne qualité est aussi important, voire plus, que de savoir que telle école est de bonne qualité. Beaucoup plus que la question de la barrière financière, je crois que l'énorme source d'inégalité, la principale source d'inégalité face au système de soins aujourd'hui est une barrière informationnelle. On a des gens qui savent où aller, des gens qui savent quels sont les systèmes de bonne qualité et des gens qui ne savent pas. Sur la question des barrières financières, le problème d'accès aux soins, ce qu'on voit, c'est qu'il se pose surtout pour les gens qui n'ont pas de complémentaire. C'est-à-dire que la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie publique, par la sécurité sociale, a eu tendance à diminuer, notamment à se concentrer sur les dépenses les plus élevées, sur les patients qui sont en affection de longue durée. Et du coup, maintenant, pour avoir un accès aux soins correct en France, il faut avoir une complémentaire. D'où l'introduction de la CMU complémentaire qui a permis de combler une partie du trou dans le filet, mais il reste aujourd'hui encore 5 à 7 millions, de l'ordre de 5 millions de personnes qui ne sont couvertes par aucune complémentaire. Donc c'est les gens qui sont au-dessus du seuil de la complémentaire CMU et qui, eux, peuvent avoir de vrais problèmes d'accès aux soins qui sont entraînés par un financement. Donc c'est au-delà de ces franchises. Je crois que c'est ces franchises pour des gens qui sont couverts par une complémentaire, ça ne va pas représenter in fine une somme très importante dans l'année. En revanche, pour des gens qui ne sont pas couverts par des complémentaires, là oui, ils vont avoir à payer une grosse partie de leur poche. Et là oui, il peut y avoir des problèmes d'accès aux soins.
Alors du coup, puisque quand même effectivement les travaux existants empiriques en économie de la santé semblent montrer que des systèmes de franchise permettraient d'inciter les patients à renoncer à un certain nombre de dépenses jugées peut-être inefficaces, ou en tout cas inutiles, comment serait-il possible d'implémenter un système effectivement de franchise tout en assurant la continuité de l'accès aux soins, notamment pour les ménages les plus modestes?
Oui, toute la difficulté, c'est d'arriver à garantir l'accès aux soins utiles en limitant la consommation de soins inutiles. Et on est dans cette logique où on cherche à éliminer tous les gaspillages tout en garantissant l'accès aux soins et une bonne couverture contre le risque de devoir payer des dépenses de soins pour des soins utiles. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que typiquement, les dépenses de soins élevées, les dépenses de soins dans l'année qui peuvent entraîner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, sont rarement des dépenses inutiles. Ou en tout cas, ça ne sert à rien d'inciter les patients à essayer de réduire ces dépenses. Le forfait, par exemple, de 19 euros sur les dépenses de plus de 91 euros, ça, c'est une absurdité. Ça ne marche pas. C'est pas en incitant de ce point de vue-là qu'on va réduire la consommation de soins, ou en tout cas qu'on va réduire la consommation de soins inutiles. En revanche, du côté des petites dépenses, des soins récurrents, là oui, on peut avoir, la littérature empirique l'a montré, ça peut avoir un sens de faire participer l'usager au financement, faire participer l'usager à la dépense de soins, parce que ça peut améliorer l'efficacité de la dépense de soins. C'est-à-dire que toute proportion gardée, toute chose égale par ailleurs, on diminue davantage la part des dépenses inutiles que la part des dépenses utiles. Mais on diminue aussi la part des dépenses utiles. Donc c'est jamais la panacée. On n'arrivera jamais à tenir les deux bouts de la ficelle en même temps. Donc au bout du compte, l'analyse, si on met tout ça ensemble, on arrive quand même à un dispositif où Ben, une franchise, mais alors une franchise, soyons pas dans la machine à gaz franco-française, mais une franchise comme ce qui existe dans pas mal de pays ailleurs, sans que ça pose d'ailleurs de problème en termes d'état de santé de la population, d'augmentation de la précarité ou quoi que ce soit, c'est une franchise annuelle. Franchise annuelle où tous les premiers euros jusqu'à un certain montant sont à payer par la personne qui accède au système de soins. Et en contrepartie de ça, eh bien, un plafond sur la dépense annuelle, dans un plafond de type bouclier sanitaire dont on parle beaucoup, qui est au-delà d'un certain montant, en revanche, la personne ne paye plus rien du tout. Donc, elle est complètement couverte contre le risque de devoir payer une dépense importante pour payer ses soins de santé. Évidemment, en termes d'équité et en termes d'inégalité, on voudrait, c'est même très important, que autant la franchise que le plafond dépendent du revenu de la personne. Pour donner un ordre de grandeur sur le montant, les montants que pourrait prendre une telle réforme, si on parle uniquement du ticket modérateur sur la dépense de ville, qui est quand même une des grosses questions, on pourrait avoir, avec une franchise de 100 euros par personne, on financerait un plafond de 330 euros. Donc ça veut dire que personne ne paierait plus de tickets modérateurs dans l'année que 330 euros. En revanche, tout le monde paierait les premiers euros jusqu'à hauteur de 100 euros. Et si on raisonne en termes de pourcentage du revenu, une franchise de l'ordre de 0,5% du revenu, donc c'est quand même pas quelque chose de très élevé, permettrait de faire en sorte que personne ne paye plus que 2,5-3% de son revenu en soins de santé.
D'accord. Et donc là, toutes ces analyses, et notamment dans le débat public aussi que l'on mène sur les dépenses de santé, conduisent effectivement à envisager les dépenses de santé comme une charge pour la collectivité, comme une charge pour la puissance publique. Serait-il pas possible d'envisager aussi quelque part les dépenses de santé comme un investissement? Et qu'est-ce que l'économie a à nous dire sur les retours sur investissement que la collectivité peut attendre de bonnes dépenses de santé?
Alors d'abord, quand on parle de dépenses de santé, il faut s'entendre. On ne parle pas de dépenses de santé, on parle de dépenses de soins. Et c'est quand même assez différent. Ce qu'on voudrait appeler dépenses de santé, c'est l'ensemble des ressources qui sont consacrées à améliorer la santé future. Et donc, tout ce qui est déterminant de la santé. La part des soins est probablement bien réelle, mais elle est non nulle, évidemment, mais elle n'est pas forcément déterminante. Dans les déterminants de long terme de l'état de santé, on a plein de choses comme les comportements de santé, l'éducation, l'attitude générale face à l'hygiène, les modes de vie, la sédentarité, l'activité physique, la consommation de sel, la consommation de graisse, tout ce qui est alimentation, et qui représente sans doute, même si quantitativement c'est difficile de préciser, mais qui représente sans doute une part plus importante explicative de l'état de santé de long terme de la population. Donc la dépense de soins n'est qu'une partie. Hein. Maintenant, c'est sûr, c'est assez amusant, j'avais retrouvé un petit texte qui était un petit fascicule de présentation de la Sécurité sociale qui doit dater de 49 à peu près, ou 48, qui posait exactement cette question-là. Et alors, c'était une vision qui était extrêmement productiviste, hein, qui parlait de ces dépenses. La critique était exactement la même, c'est-à-dire, ça évoquait en disant on pourrait penser que ces dépenses sont très élevées, alors que le taux de cotisation en 49, je sais bien qu'il n'était pas exactement le même taux qu'aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, on se posait cette question-là. Et la réponse, c'était mais oui, mais c'est une dépense qui est efficace pour la gestion du capital humain. Le terme de capital humain fonctionnait. Alors, dans le contexte des années 40 de la France en reconstruction, c'était vraiment s'assurer qu'on avait des corps productifs, c'est-à-dire des corps capables de travailler, capables de reconstruire la France. Donc, l'investissement en santé, en l'occurrence l'investissement dans le système de soins, à l'époque, était vu comme une manière d'avoir un corps social productif, mais aussi un corps humain, un corps individuel du travailleur en bonne santé qui était capable de reconstruire des ponts et de reconstruire des chemins de fer. Quantitativement, c'est difficile à évaluer. Hein. Maintenant, quand on parle de capital humain, on a plutôt tendance à parler de pas uniquement de voir ça en termes de capacité productive. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le système de la France d'immédiatement après-guerre, il y avait des vrais besoins en termes de système de soins, en termes d'accès aux soins et en termes d'offres de soins qui étaient notoirement insuffisantes, qu'il fallait reconstruire aussi. Et que dans cette situation-là, le rendement marginal du système de soins sur l'état de santé, sur la capacité productive, mais aussi sur le bien-être des gens, était probablement très élevé. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut le réduire, mais on est probablement dans une zone où, en termes de déterminant marginal de l'état de santé de la population, ce n'est pas nécessairement sur cet aspect-là des choses qu'on va pouvoir gagner grand-chose, quoi.
D'accord. Parfait, merci beaucoup.